l'actualité des idées aujourd'hui, la crise de financement du cinéma et autres mutations, alors que se discute encore un accord entre le ministère de la Culture et Canal+ sur l'engagement de la chaîne payante en matière de production et sur cette question de la chronologie des médias dont nous allons vous reparler. Avec nos invités, Bertrand Tavernier, président de l'Institut Louis Lumière de Lyon, vice-président de l'association Premier Siècle et membre de l'ARP, réalisateur entre autres de la série Voyage à travers le cinéma français, diffusée à partir de dimanche sur France 5, dont on vous parlait dans la première partie de l'émission. Et Emmanuel Chaumet, qui nous a rejoint, directeur de Ecce Film, producteur entre autres des films de Bertrand Mandicot, Justine Triette, de Benoît Forgeard et tant d'autres. Bonjour à vous Emmanuel Chaumet. Bonjour. Et merci Bertrand Tavernier d'être resté à nos côtés. Emmanuel Chaumet, vous étiez le signataire d'une tribune il y a 5 ans, c'était en 2013, avec d'autres réalisateurs, cinéastes, producteurs, mettant en garde le public et tous les observateurs de ce milieu sur l'état du cinéma. Un cinéma français en danger. Aujourd'hui, à en croire le nombre de films qui sortent chaque année sur grand écran, il se porterait plutôt bien, même très très bien, 300 films par an. La France, premier producteur en Europe. Est-ce qu'on produit trop et mal, ou est-ce qu'on a une mauvaise image de cette production, qu'en fait le cinéma se porte effectivement bien aujourd'hui?
De mon point de vue, il se porte bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets de films, qu'ils écrivent, ils sortent des écoles. Il y a tout un dynamisme aussi des salles de cinéma. C'est l'un des rares pays, la France, où les gens vont encore au cinéma. C'est une sortie qui compte, aussi bien à Paris qui bénéficie d'un réseau de salles absolument phénoménal, mais aussi en province. Moi, je serais tenté de dire que depuis que j'ai monté ma société en 2003, j'ai fait à peu près tous les films que je voulais faire. Donc, parfois c'était insuffisamment financé, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché, mais je continue de faire ce que j'aime faire.
Donc le danger que vous étiez nombreux à pointer en 2013, il s'est éloigné?
C'est pas qu'il s'est éloigné, c'est que je pense qu'il y a eu une prise de conscience un peu générale dans la profession que finalement le métier, enfin la production vivait un peu au-dessus de ses moyens. Donc je pense qu'il y a eu un rééquilibrage à la baisse en termes des budgets de production des films. Et dans cette nouvelle économie-là, nous qui n'avions jamais connu les années fastes de la création de Canal+, avec des investissements de Canal énormes sur des films qui parfois ne trouvaient pas leur public, on avait un temps d'avance pour s'adapter à cette nouvelle économie. Peut-être un peu plus précaire, mais moi je suis de ceux qui pensent que créer au cinéma c'est quelque part trouver des solutions dans des contextes économiques qui peuvent paraître difficiles. Voilà, on fait pas ce métier pour gagner bien notre vie ou voilà.
Pour que tout soit simple, visiblement. Bertrand Tavernier, vous avez toujours dit la crise du cinéma français, elle a toujours existé.
Oui, elle a existé depuis la première projection des Frères Lumière, puisque la première projection était un échec. Là, il y avait déjà, donc on était déjà, l'exploitant ne trouvait pas, il y avait trop peu, il n'y avait que 30 spectateurs, donc il perdait de l'argent. Là, après, petit à petit, que le bouche à oreille, c'est devenu un triomphe. Oui, mais de tout temps, j'ai entendu parler de la crise du cinéma français. Je me souviens d'avoir discuté avec un journaliste, je crois que c'était Philippe Tesson, je lui avais dit, dans les journaux que vous avez dirigés, au moins 4 fois, j'ai vu écrit en grand titre « Le cinéma français est mort ». Or, tous les journaux que vous avez dirigés sont morts et ont disparu. Et nous, on continue à exister. Hein, qu'est-ce que... Je me demande où est la réalité. C'est vrai, j'ai toujours vu ça. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes énormes. Ça fait très longtemps. Moi, je siégeais à la SACD, pas seulement, surtout à la SACD. Et là, on se mobilisait pour changer la chronologie des médias, pour faire modifier un certain nombre de règles. Et c'est vrai que là maintenant, les gens semblent en prendre conscience, mais il y a eu un blocage à peu près aussi grand que celui d'Emmanuel Macron sur l'écologie.
Alors cette chronologie des médias que vous souhaitiez changer, ça y est, c'est presque acté dans les discussions en cours entre Françoise Nyssen et les professionnels du cinéma, et surtout Canal+, la chaîne de télévision qui est depuis longtemps pourvoyeuse, productrice de cinéma aujourd'hui. Quels sont les enjeux de ce changement de chronologie, Bertrand Tavernier, Emmanuel Chaumet?
L'idée, c'était de préparer le terrain pour de nouveaux entrants, plus ou moins vertueux, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux entrants qui manifestent la volonté de prendre des engagements d'investissement dans la production, d'autres qui prennent des engagements de diffusion d'œuvres européennes, d'œuvres d'expression originale française. Donc c'était le souhait, je crois, du point de vue des pouvoirs publics et des partenaires historiques du cinéma de prendre acte de ce changement. Et d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, parce que je ne suis pas au fait de toutes ces discussions, j'ai cru comprendre que c'était un premier pas et que probablement il faudrait aller un peu plus loin très vite. Mais en tout cas, chaque partenaire du cinéma français a anticipé de quelques mois sa fenêtre de diffusion d'un film, que ce soit de la VOD, de la télévision payante, non payante, avec des interlocuteurs qui ont ou non signé des accords avec le CSA relatifs à la production et aux investissements et aux diffusions.
Bertrand Tavernier.
C'est vrai que l'arrivée, je pense, dans les nouveaux entrants... C'est des gens comme Netflix ou Amazon. C'est vrai que déjà, ces gens-là ont bouleversé la donne, déjà aux États-Unis. En faisant preuve, d'ailleurs, ils ont bouleversé la donne parce que, autour d'eux, les gens étaient hyper conservateurs. Qu'est-ce qu'ont fait des gens comme Amazon? C'est qu'ils ont été directement, ou Netflix, directement s'adresser aux créateurs. Et ils ont dit à Martin Scorsese, vous n'arrivez pas à monter des films avec les studios. Là, nous, on vous les finance. Ils l'ont dit la même chose à Cuaron, ils ont dit la même chose. Amazon a financé aussi beaucoup de films d'auteurs. Manchester by the Sea, c'est le film Amazon. Et Amazon, contrairement à Netflix, faisait sortir ses films en salle. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont bénéficié de la frilosité de grands groupes qui pensaient que tout était acquis. C'est arrivé un peu aussi en France, hein, où pendant très longtemps, la menace Netflix n'a pas été prise au sérieux par Canal. Rien que, par exemple, le nombre de gens qui me disent... S'abonner, se désabonner de Netflix, c'est rien, alors que Canal, c'était épouvantable. Ça aurait dû être réformé depuis longtemps. Un service de SVOD, comme ça, aurait dû mettre en place. La VOD, la VAD, a mis beaucoup de temps à être développée en France. Beaucoup, beaucoup de temps, le dynamisme, par rapport, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est dommage, parce que c'est quelquefois une seconde vie des films, et pour certains films, même une possibilité de trouver un public qu'ils n'avaient jamais trouvé.
Et vous en savez quelque chose, parce que, Bertrand Tavernier, si je ne me trompe, vous avez aussi présidé la commission vidéo du CNC,
oui,
à un moment.
Oui,
se posait alors la question, effectivement,
il y a quelques années. Sur l'aide au DVD, oui, bien sûr.
DVD, et c'était l'arrivée vraiment massive de la vidéo à la demande aussi,
oui,
donc ces questions-là se posaient.
Mais on était en retard, on essayait de donner une prime pour les gens qui justement préparaient la VOD. Mais monsieur, on s'est aperçu, et les chiffres, à un moment publiés par le CNC, montraient qu'on était très, très en retard par rapport à ça, et même par rapport aux Américains, par exemple.
Il est intéressant à expliquer ou à comprendre ce retard français, Emmanuel Chomet, parce que c'est vrai, comme le souligne Bertrand Tavernier, comme pour l'industrie de la musique, la France a mis du temps à s'intéresser au caractère disruptif de ces nouveaux acteurs, de Netflix, d'Amazon, de ces nouvelles plateformes qui sont en train de profondément changer l'écosystème aussi du cinéma en France. Alors pourquoi on a aussi longtemps bénéficié ici en France d'un cadre législatif qui était très favorable en matière de production. Et parmi les piliers de ce système, il y a le CNC, il y a aussi les chaînes de télévision qui préfinancent certains films. On a pensé que cet édifice qui avait été créé, cette exception française, était indéboulonnable, intouchable, comme une sorte de forteresse qui nous préservait de ces changements-là.
Oui, alors il y a deux façons d'aborder la question. Alors on pourrait l'aborder d'un point de vue plus ou moins conservateur, à savoir un vieux système qui refuse d'évoluer. Et j'ai envie ici de dire que c'est aussi la force de notre système que de fonctionner. Alors, le CNC, finalement, c'est la profession. Le CNC, c'est les producteurs, les exploitants, les distributeurs qui, au sein de cette grande maison, occupent des postes et sont présents pour l'élaboration de la politique publique en la matière. Finalement, la force de notre système, il est assis sur le financement de ce système, à savoir que c'est une taxe sur la salle de cinéma, sur le chiffre d'affaires des chaînes, et peut-être un jour sur le chiffre d'affaires des GAFA, on peut rêver. Mais en tout cas, ce système est partagé par l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, sa force, c'est le dynamisme de notre marché en salle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, un film d'auteur en France, alors vous avez parlé tout à l'heure de Bertrand Mandicot, c'est 40 000 entrées, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est un cas unique au monde, voilà, qu'un film qui sorte sur une trentaine de copies puisse atteindre ce résultat-là en salle de cinéma. Voilà, et je ne parle pas effectivement de films qui dépassent très régulièrement le million ou les 2 millions d'entrées. C'est donc sur ce dynamisme-là que le système, finalement, a pensé qu'il pourrait maintenir son principe d'une chronologie faisant la part belle, d'abord à la salle de cinéma, et Bertrand Tavernier qui a fait de si nombreux beaux films, voilà, ne me contredira pas en disant que voir un film de cinéma, c'est partager une expérience dans une salle,
absolument,
avec un public sur grand écran et des qualités.
C'est unique, c'est vrai. La salle de cinéma est irremplaçable. Moi, je trouve que le système français est un système extraordinaire. C'est un système très intelligent qui était destiné d'abord à lutter contre une offensive américaine, puisque c'était les Américains qui voulaient imposer un quota qui interdisait aux films français de passer plus de 12 semaines par an. C'est ce que je montre dans un des épisodes de Voyage. Et on a pallié à ça en créant le fonds de soutien, en créant face à un dictat américain. Maintenant, le dictat américain, il est dans les GAFA. Maintenant, ce sont les Internet qui imposent exactement la même chose et qui refusent de rémunérer les créateurs sur leur œuvre. Ils se conduisent un peu comme les gens de théâtre à l'époque de Beaumarchais, qui voulaient garder toute la recette pour eux, qui ne voulaient pas rétribuer les gens qui écrivaient les pièces. C'est exactement la même chose. Et la loi sur le droit d'auteur qui donnait enfin une rémunération aux créateurs, qui le donnait grâce à un droit voisin à des éditeurs dont tous les produits étaient utilisés par les GAFA sans rémunération. Cette loi a d'abord été retoquée par des gens qui ont cru, qui ont accepté le lobby des GAFA, qui leur disaient « vous supprimez la liberté sur Internet ». Et donc on a eu des députés socialistes, écologistes, qui ont pensé que les GAFA étaient totalement vertueux. Et ça, c'est quelque chose de très réellement. Et c'est vrai qu'on a affaire, là, la question, là, comme ça, elle dépasse la France, c'est l'Europe. Où l'Europe
avec cette directive qui est en train de repasser au Parlement aussi.
Oui, où l'Europe accepte de considérer que le numérique est aussi important que le physique, et que les auteurs doivent être pris en compte, les auteurs et donc les producteurs, les ayants droit, pris en compte autant dans le numérique qu'en le physique, ou alors ils tirent un trait et ils donnent un blanc-seing aux GAFA qui vont piller consciencieusement tout le patrimoine et toute la création.
Emmanuel Chomet, sur ce point.
Oui, alors prenant la parole sur ce point, je me disais il y avait une autre façon de concevoir, enfin d'aborder cette question. Et c'est vrai que il y a aussi de la part d'un certain nombre d'organisations professionnelles une volonté conservatrice de rester sur des acquis en se mettant des ornières sur des évolutions qui sont fondamentales. Moi, je produis beaucoup de films qui font quelques entrées en salle, puis qui parfois sont diffusés sur cette très belle chaîne qui est Ciné+, qui appartient au groupe Canal+. Et en général, au bout de 18 mois, on m'explique que mon film, je ne peux plus le montrer nulle part. Parce que les demandes de diffusion que j'ai, ce sont des sites comme Mubi qui sont malheureusement relégués à 36 mois de la sortie salle. Donc mon film, qu'est-ce qu'il fait ? On le retrouve en téléchargement illégal. Et finalement, nous, on s'en réjouit puisque finalement, il est vu. Alors que sinon, il resterait sur une étagère pendant plus d'un an.
Il est vu, mais ça rapporte rien.
Oui, mais quelque part, ça participe de la notoriété d'un film. Et moi, je pense que les gens qui téléchargent illégalement un film ne paieraient pas 1 euro pour le voir sur leur téléphone, ni 10 euros pour le voir en salle. Je ne sais pas. Après, je parle de ce que moi, je connais avec mon catalogue à moi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un de vouloir demander, par exemple, un nouvel entrant comme Mubi d'investir dans le cinéma français. Je pense que c'est pas le débat. Je veux dire, ils font très bien leur travail d'éditorialisation des cinéastes. Je fais des courts-métrages. Souvent, ils m'appellent en disant, tiens, vous avez le film de Bertrand Mandicot. On va faire un mois spécial Mandicot avec tous ces courts-métrages. Et le court-métrage échappe à cette chronologie des médias. En revanche, les longs-métrages, on m'explique, non, tant que de fait, ni TF1, ni M6, ni France 2, ni France 3 n'aura déclaré qu'ils ne sont pas intéressés par les garçons sauvages, vous pourrez pas le diffuser ailleurs.
Est-ce que ça fait partie quand même aujourd'hui encore des discussions au ministère de la Culture avec Canal+, pour que Canal+ se réengage en matière de production cinématographique? La chaîne demande quelques garanties, l'idée un peu d'un donnant-donnant, et notamment parmi les revendications de Canal, il y a la demande de lutter contre le piratage, Bertrand Davernier, contre cette concurrence de Netflix ou d'Amazon. Ça, c'est un combat un peu d'arrière-garde?
Non, c'est pas un combat d'arrière-garde, mais dans cette affaire, je pense qu'il faudrait s'en remettre un peu plus aux artistes et aux producteurs. C'est-à-dire que moi, je pense que si Canal+ me donne 1 million pour faire un film, jamais je m'amuserai à ce que ce film soit, au moment où Canal+ le diffuse, visible ailleurs, que ce soit en VOD. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, on devrait faire un peu confiance aux partenaires qui portent les films et parier sur leur intelligence en disant, bah, écoutez, voilà, si Canal+ veut continuer à investir autant d'argent, il faut faire un pas vers eux et considérer que le producteur, l'auteur, prend des engagements d'exclusivité sur du long terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encadrer tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, on devrait un peu plus nous faire confiance sur le fait qu'à un moment donné, c'est le bon moment d'aller vendre un film en SVOD parce qu'on a épuisé son potentiel télé ou salle, et on devrait faire un peu plus confiance. En France, on a un peu toujours tendance à penser que sans la loi, il ne se passera rien de bon.
Non, ça, c'est vrai qu'il y a des règles qui sont rigides, et trop rigides, et qu'on applique de manière un peu sans réfléchir. Évidemment, sur tout un type de cinéma, nous, on se bat, c'est vrai. Et c'est vrai que Canal+ devrait accepter, s'ouvrir. À mon avis, d'accepter que des chaînes, ça ne va pas leur nuire, que d'autres fenêtres puissent s'ouvrir un peu plus vite, étant donné la rapidité de l'exploitation. Et puis je pense qu'une multi-exploitation, quelquefois, n'a pas nui à un film. Moi, je vois, j'ai des films qui sont passés de très nombreuses fois quand ils sont repris sur une chaîne. Pourtant, un film comme La vie, rien d'autre, qui est passé à peu près une douzaine de fois, je refais quand même un score tout à fait formidable. Donc, il y a une on retrouve toujours un public différent. Il y a une manière. Et en effet, il faudrait plus se soucier des auteurs. Mais la lutte contre le piratage, elle pourrait déjà être, elle aurait dû faire des pas en avant. Moi, plusieurs personnes, des distributeurs, ça m'ont dit que le conseiller du président, ex-directeur de, je crois, de Canal+, hein, Monsieur Courson, Olivier Courson, qui m'a fait attendre un an sans me recevoir pour Voyage à travers le cinéma français, ça, a dit que c'était pas la priorité, la lutte contre le piratage. Le bien, moi, je pense que c'est une priorité. Ça, on l'a montré en Allemagne, où ils sont arrivés à mettre un système qui fait que ça a beaucoup diminué la piraterie. Et du coup,
le marché de la vidéo.
Ça a redéveloppé le marché de la vidéo. Donc, je pense que avec une volonté politique, on pourrait avancer. On pourrait avancer. Alors, tant dans le gouvernement, s'il y a une volonté politique, là, et dans, en effet, les règles, si on prend en compte les créateurs, et non pas certaines règles quelquefois qui sont passéistes et défendues par des gens qui, à un moment, ont eu des idées formidables, mais qui ont un peu perdu pied.
Mais ça montre aussi que peut-être pendant un peu trop longtemps, vous, les professionnels du cinéma, réalisateurs, producteurs, le système s'est un peu trop reposé sur Canal, qu'il aurait fallu chercher des solutions alternatives plus tôt. Vous l'avez pas connu du tout.
Elle existe encore, logiquement, elle s'est pas totalement effondrée. Qu'on discute ces règles avec qu'on discute, qu'on tire le signal d'alarme des réalisateurs. Non, on peut dire beaucoup de choses, mais les cinéastes ou les auteurs français ont été toujours engagés dans le combat dans ce combat pour, non seulement pour le cinéma, il faut rappeler, mais pour tout ce qu'il y a autour. Hein, le combat contre l'ami, contre Greg, avait été lancé par les cinéastes français.
Bon, et à propos de combats gagnés ou perdus, si on remonte un tout petit peu en arrière, 1985, Bertrand Tavernier, création d'une nouvelle chaîne privée, gratuite, c'était la 5, qui aura le droit, elle, à des coupures publicitaires dans les films. Vous étiez monté au créneau.
Je voudrais d'abord rappeler notre position, hein, les réalisateurs français. Nous ne sommes pas contre une cinquième chaîne. Nous ne sommes pas contre une cinquième chaîne privée. Nous sommes contre cette cinquième chaîne avec ce cahier des charges qui est une atteinte à la production française, télévisuelle, au cinéma français et qui menace, qui nous menace nous complètement dans notre vie, dans notre chair, puisque c'est une télévision qui veut couper, mutiler, amputer des films et donc les priver de leur sens, de leur recherche et de ce que nous essayons de communiquer aux spectateurs.
Voilà, votre engagement depuis toujours, Bertrand Tavernier, on l'entend à travers cet extrait.
Nommer Berlusconi, là, c'est comme nommer Mémé Guérini au ministère de la Justice.
Voilà. Vous n'avez pas connu cette période non plus, Emmanuel Chaumet, vous n'étiez presque pas né, mais... On entend aussi les risques pointés à ce moment-là par Bertrand Tavernier dans cet écosystème. Quelles sont pour vous aujourd'hui les nouvelles menaces en termes de contenu aussi, en termes de créativité?
Les nouvelles menaces, c'est vrai que moi je suis plutôt... voilà. Tout va plutôt bien de mon point de vue parce que je travaille avec des cinéastes qui avec qui j'ai un dialogue et qui nous permet de trouver des espaces de liberté et de continuer à faire ce qui nous passionne. Donc je suis pas tellement pessimiste sur l'évolution. Vous avez accueilli il y a 15 jours à la grande table un programme, enfin des cinéastes qui ont présenté un programme de court-métrage Ultra Rêve. On a fait une projection au MK de Beaubourg l'autre jour. La salle était pleine. La moyenne d'âge c'était 22-23 ans. Il y avait 150 personnes dans la salle. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y a toujours une envie de découvrir de nouveaux films.
Et un renouvellement des publics aussi.
Renouvellement des publics. Renouvellement des cinéastes. On l'a dit tout à l'heure rapidement, mais il y a une activité de production de courts-métrages qui est extrêmement vive en France, c'est vraiment unique au monde. Régulièrement, il y a une trentaine de jeunes, de nouveaux cinéastes qui arrivent sur le marché de la production.
Mais c'est aussi parce que ces publics se renouvellent qu'il faut se demander, à l'ère du numérique, ce qui a vraiment changé, à la fois dans la création, mais aussi dans la diffusion. Comment garder ou faire venir ces nouveaux publics? Comment leur faciliter l'accès? Et c'est aussi ça qui est en train de changer.
Ouais, je pense que ce qui va être important dans les mois et années qui viennent, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de médias qui vont se distinguer par leur capacité à éditorialiser leur offre. Et je crois qu'on n'échappera pas quelque part à...
Ça veut dire quoi, éditorialiser?
Éditorialiser, c'est-à-dire ne pas simplement donner à voir des films en téléchargement comme ça, mais d'inscrire le film dans une histoire récente de cinéma, enfin de travailler autour de la réception des films. Je pense qu'il y a un certain nombre de médias, et je crois que le débat à France Télévisions aujourd'hui consiste aussi à se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour éditorialiser notre offre de cinéma sur la chaîne? Et je crois que ça fait partie des nouvelles ambitions de la chaîne que de recréer cette case qui existait avant sur France 3 avec Brion, c'est ça?
Oui.
Voilà. Et qui nous a permis, nous, de découvrir tout le cinéma européen qui continue de nous accompagner.
Voilà, là, vous allez réveiller le petit monstre qui est dans la tête de Bertrand Tavernier avec son voyage à travers le cinéma français, sa série documentaire dans l'histoire
enfin
du cinéma.
De rencontrer mon attaché de presse que
qui
je
sera diffusé.
C'est les méthodes modernes de France Télévisions, que l'attaché de presse ne rencontre pas le metteur en scène, là, je crois, et ne fasse pas de dossier de presse. C'est une moi qui étais attaché de presse, j'ai dit, bon, moi, voilà, oui. En effet, le cinéma évolue, ou le Berk évolue. évolue, et ce sont les nouvelles méthodes tout à fait joyeuses qu'il faut accepter, parce que voilà, c'est une manière de mieux lancer les films. Mais c'est
non,
c'est...
Bah alors expliquons quand même, petit coup de colère, parce que cette série sera diffusée après 23h30.
Le premier dimanche à 14h et dépoussiée à 14h05, voilà, et après à 23h. Non, qu'elle soit diffusée très tard, les gens pensent que le patrimoine...
c'est la nuit.
Dont on parle avec des sanglots dans la voix, mais quand même, vers minuit, c'est mieux. Des films qui sont parmi les chefs-d'œuvre du cinéma français, faut mieux les voir vers minuit. Bon, ça, c'est la vie. Mais surtout, d'avoir une série comme ça et de n'avoir jamais la possibilité de rencontrer l'attaché de presse, ni de rencontrer personne. C'est vrai que des gens comme Jérôme Sédoux ou les Derrière Gaumont sont plus occupés que les gens de France 5, et je comprends que ce soit beaucoup plus facile de les voir et de leur montrer l'intégralité de la série. Ça, je comprends. C'est l'évolution, ça fait partie du monde moderne.
Alors, dans ce monde moderne, vous avez ouvert un autre dossier important pour l'un comme pour l'autre, Emmanuel Chomet, cette question de l'éducation aussi à l'image aujourd'hui. Récemment, on a vu, lors de la dernière cérémonie des Césars, un nouveau prix décerné.
Merci beaucoup. Non, je m'y attendais pas, vraiment, je m'y attendais pas du tout.
Mais tu le mérites, ce prix.
Je voudrais partager tous les autres films avant, et voilà. Non, je vous remercie, non. Je vous remercie pas vous. Mais je vous aime quand même. Voilà. Je remercie surtout le public français qui aime tous les cinémas et grâce à qui nous sommes réunis ce soir, tous ensemble. Voilà.
Un nouveau prix du public décerné à Danny Boone. Est-ce que demain, on aura le plaisir, peut-être, ou la surprise de voir décerner un prix du patrimoine, Bertrand Tavernier, vous l'appelez de vos voeux?
Moi, je me battrai pour ça. Je pense que le patrimoine, ce n'est pas du passé. Je pense que de développer une curiosité pour le cinéma passé, pour le cinéma, pour la littérature, pour la musique, comme ça, c'est une manière de parler aussi du présent. C'est des choses que disait, que ressentait très très fort Truffaut, que sentaient des gens comme Truffaut, comme Godard. C'est vrai, c'est hyper important d'avoir ça. Et pendant longtemps, on l'a fait. Il y a des gens comme Patrick Brion qui ont été des piliers de ça. Je pense qu'il faut continuer. On a une politique de restauration extraordinaire en France, soutenue par l'État, extraordinaire, que des sociétés comme Pathé, Gaumont, TF1, qui est en train de restaurer des films magnifiques de Bresson ou de Decoing, Perdu. Il faut qu'on puisse les voir. Et qu'on puisse les voir. Le festival qu'on fait à Lyon, Festival du Patrimoine, on a 130 000, 140 000 spectateurs en une semaine. Donc il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et ces gens sont tout à fait prêts à aller voir les programmes de court-métrage. Ce sont les mêmes. Les spectateurs qui peuvent se passionner pour un film comme ça seront prêts à voir du cinéma expérimental. Je pense que c'est ça. C'est des gens qui refusent la culture absolue du blockbuster.
Emmanuel Chomet.
Sur le patrimoine. Non, sur le prix pour Danny
Boone. Vous êtes en train d'en produire, hein, vous savez.
Non, mais je me suis posé la question sur les premiers films que j'ai produits en pellicule en 2008 et pour lequel, effectivement, je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle génération qui arrive qui n'a pas pu découvrir les premiers films de Sophie Le Tourneur. Voilà. Donc, je me suis dit, sans me projeter dans le siècle trop loin, je m'étais dit qu'effectivement, il y a pour ceux qui croient en ce qu'ils font, il y a la nécessité de penser au nouveau public qui arrive et à leur donner la possibilité de voir ces films. Non, par rapport à Danny Boone, ce qui est génial, c'est qu'il sera de nouveau primé cette année, puisque logiquement, je crois qu'il a encore gagné le prix du public avant, d'ici le 31 décembre, je crois qu'il est déjà en avance sur ses concurrents. Et non, mais après, les Oscars font la même chose, manifestement. On peut pas s'intéresser aux Césars et se dire que c'est important aussi pour Canal+ d'avoir pour l'antenne une émission qui ressemble effectivement le cinéma, y compris dans sa diversité, y compris du côté de ces blockbusters français qui, que moi j'ai pas forcément vu, mais dont on dont on peut penser qu'ils sont plutôt bien réalisés et bien produits.
C'est une des questions qui se pose aujourd'hui encore, celle de la diversité de la production du cinéma français. Est-ce que des institutions comme le CNC, on n'en a pas encore parlé, favorisent pour vous aujourd'hui encore cette diversité? Ou est-ce que, comme on l'entend dire par-ci par-là, et notamment à travers l'avance sur recette, c'est toujours les mêmes qui en bénéficient, que c'est une aide à l'origine devait favoriser le renouvellement de la création, mais qui aujourd'hui est toujours attribuée aux mêmes?
Bah, c'est ce qu'on dit toujours de l'avance sur recette, c'est le moins mauvais de tous les systèmes, c'est-à-dire que il y a un premier collège pour les premiers films, il y a une curiosité naturelle de la plupart des personnes qui siègent dans ces commissions, il y a la bienveillance du CNC sur pour que il y ait une espèce de démocratie dans les débats, respect de la pluralité des positions. Après, il y a toujours cette tendance un peu à se dire que on invite toujours un peu ceux qui sont les bons élèves ou les ceux qui parlent bien des films, qui sont pas forcément les professionnels. Enfin, c'est souvent des professionnels qui ont le temps à consacrer à tout cela. Et donc, il y a forcément tout le temps un peu il faut de temps en temps donner un petit coup dans le système pour que de nouveaux entrants
entre. Bertrand Tavernier, il n'y a pas de conservatisme du côté du CNC? On a beaucoup de mal à voir ou à comprendre comment ça se passe exactement.
Pas du CNC. Il y a un travail. Le CNC ne peut pas tout dicter. Mmh. Ce sont les films qui amènent le public et quelquefois malgré ou à cause des exploitants, parce qu'il y a des films qui sont un peu sacrifiés, virés un peu trop vite, tout ça. L'avance sur recette, depuis j'entends ce discours de Mion, elle a quand même permis de révéler des tas de cinéastes, elle a permis à un grand nombre de films d'exister, c'est vrai, voilà. Bon, elle est passée à côté de certains auteurs, c'est aussi vrai, mais c'est la même chose de tous les votes, hein. On pourrait dire, moi je le dis d'autant plus que récemment, j'ai été deux fois retoqué pour Voyage à travers le cinéma français, donc ils n'ont pas considéré que c'était intéressant
Mais vous l'avez dit, pour beaucoup de vos films, même en s'appelant Bertrand Tavernier, c'est pas
oui, mais je
évident d'avoir
pas. Moi,
pour
je
autant...
Que j'avais pas, les... je l'ai demandé uniquement quand les producteurs me suppliaient de demander, c'est-à-dire pour La vie, rien d'autre, et pour La princesse Montpensier, pour La vie, rien d'autre, René Clétman m'avait dit j'ai besoin de l'avance sur recette, je peux pas. Et on l'a eu et on a remboursé. En tous les cas, on a remboursé. Nous, moi, je me sens quitte avec l'avance sur recette. Mais moi, je n'aimais pas demander. Je n'aimais pas. Je pensais que j'y avais pas droit. Que c'était réservé à des gens qui avaient. Il fallait mieux le donner à des gens comme Jacques Doyon ou des gens comme ça. Voilà, ça a été toujours ma philosophie. Oui, mais c'est comme à Cannes, on dit toujours il y a des abonnés. Mais il se trouve que certains de ces abonnés ont en plus du talent et font des bons films. Alors quoi, vous allez refuser l'avance sur recette à je sais pas s'il la demande, mais à Assayas ou à Audiard, parce que il la redemande, mais. Les films avant ont été bien et le film c'est un petit peu un faux procès. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a la vie des films dans les salles. Il y a des choses très bizarres dans l'exploitation. Moi qui vais beaucoup dans les salles de cinéma, je vois que dans mon quartier par exemple, on sort le même film dans deux salles très proches et les films passent au même horaire. C'est-à-dire que si je le loupe au Gaumont Opéra, je pars, je suis 5 minutes en retard, j'arrive à l'UGC, il a commencé à la même heure. Donc je suis coincé. Ça, c'est pas de la très bonne politique commerciale, ça.
Non, mais c'est peut-être assez parisien comme exemple ou comme situation.
Ah non, parce que dans les villes de province, moi je suis tombé des fois, il y avait trois salles proches qui sortaient le même film.
Merci beaucoup Bertrand Tavernier d'avoir passé cette heure et demie avec nous, cette grande table en deux parties. Merci beaucoup à vous Emmanuel Chopet d'être venu discuter autour de la situation du cinéma français. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table pour cette belle semaine. Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour votre grande table des idées avec pour l'une et l'autre des deux parties l'aide très précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Élise Le. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et rendez-vous lundi.